RCF.
Bonjour ou bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs qui nous écoutez par la radio RCF ou par l'Internet. Nous sommes ensemble avec les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des chemins de pensée de la philosophie. Et aujourd'hui, nous allons aborder un auteur qui s'appelle Olivier Rey, auteur contemporain, donc qui réfléchit sur notre époque. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit hommage à l'équipe qui travaillait en philosophie, à l'émission de philosophie chez RCF, l'équipe de Philophile avec l'animateur Monsieur Lefebvre. Et ils avaient eux aussi consacré une émission au texte d'Olivier Rey. Alors, pour découvrir les livres d'Olivier Rey, je vais citer quelques références bibliographiques dans l'ordre chronologique inverse. Alors, nous allons accueillir à Nancy le mardi 11 décembre 2018 à 20h, cours Léopold, place Carnot, salle d'honneur des universités. Olivier Rey nous parlera de son dernier essai qui s'appelle « L'heure et malheur du transhumanisme ». Alors, le livre coûte 16,90 € et il paraît cet automne 2018 aux éditions des Clés de Brouwer. Voilà. Alors donc, pour tous nos auditeurs, on conseille de noter cette date, mardi 11 décembre, 20h, salle d'honneur des universités. Je pense qu'on peut trouver ces informations sur l'Internet. Alors, il s'agit de la question du transhumanisme, donc d'une modification de l'être humain qui vise à changer sa structure, même son essence, à repousser la mort. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce dernier essai, mais des travaux précédents d'Olivier Rey. Alors, en 2016, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, Olivier Rey consacrait un essai qui était dédié à la question de la statistique, donc quand le monde s'est fait nombre, paru aux éditions Stock Collection Les Essais. Et puis, nous conseillons également à nos auditeurs cet essai qui s'appelle « Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit ». Et puis, en 2003, le premier livre, premier à tous les sens du terme, c'est-à-dire dans un ordre chronologique, mais aussi peut-être dans un ordre d'importance et de programme, cet essai remarquable, vraiment assez exceptionnel, qui s'appelle « Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine ». Voilà. Alors, on a cité quelques noms d'ouvrages qui sont tous passionnants, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un livre qui s'appelle « Une question de taille » et qui est aussi paru aux éditions Stock.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, pour entrer en dialogue avec Olivier Rey, nous allons donner la parole à Anne Bonneau, qui va nous lire un extrait où Olivier Rey commence donc par parler des araignées géantes et des créatures étranges qui peuplent les films et les romans de science-fiction. Voilà, que nous dit Olivier Rey de ces films?
Voilà, et il essaye aussi de définir ce qu'est la postmodernité. Donc, ces films permettent de saisir un trait important de la postmodernité, si difficile à définir par ailleurs, le changement d'horizon temporel. La modernité se déployait sur fond d'avenir infini. La postmodernité ne sait pas s'il y a un avenir. Certes, chacun, à son échelle, continue vaille que vaille à faire des projets, pense à sa retraite, sans savoir si pour autant il en aura une, se soucie de l'avenir de ses enfants, tout en soupçonnant qu'il sera difficile. mais ces perspectives demeurent privées, ne s'intègrent pas à un horizon de temps partagé et sont de plus en plus défensives. Il ne s'agit plus tant de surmonter les difficultés que de leur survivre. À la place des visions d'un avenir radieux, plane le spectre d'un monde sans postérité. Dans sa lucidité, Günther Anders avait perçu le tournant de façon précoce. On cite Günther Anders, donc. L'époque des changements d'époque est passée depuis 1945. Nous ne vivons plus à présent une époque de transition précédant d'autres époques, mais un délai, tout au long duquel notre être ne sera plus qu'un être juste encore, Gerade noch sein. Au pas encore être, noch nicht sein, Derns Block, dans le principe espérance, Anders substitue le juste pas encore néant, Gerade noch nicht sein. Dans un français familier, on parlerait de monde subclaquant. Selon Anders, le présent est devenu pour nous comme une préhistoire, en deux mots, c'est-à-dire comme un dernier délai. La transformation technique du monde devait rendre celui-ci plus accueillant, et voici qu'elle le dérègle. Elle devait mettre l'humanité à l'abri des aléas, et voici qu'elle rend l'avenir plus incertain que jamais. On se prend à songer, devant l'enfermement qui perdure, aux rues de Pompéi avant l'éruption du Vésuve.
Merci. Alors, beaucoup d'idées fortes hein, dans ce petit passage, c'est concentré. Sylvain, est-ce que tu veux commenter déjà quelques parties qui ont attiré ton attention ?
Bah, déjà, là, sur cette partie-là, on voit effectivement que beaucoup de choses ont changé avec cette définition de la postmodernité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, ce qu'on peut assimiler comme quelque chose qui est un progrès, n'en est pas forcément un. En tout cas, si on reprend la définition rigoureuse du progrès, le progrès peut être positif ou négatif. Le progrès, c'est un avancement, c'est simplement une évolution. Et en fait, au fil des temps, d'ailleurs, il en parle un petit peu plus loin dans le livre, le progrès a pris une connotation toujours positive. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller vers le progrès. Sauf que on ne fait plus trop l'effort de se poser la question de savoir si tous les progrès sont positifs ou pas.
Alors, la première question, effectivement, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une marche forcée, forcée vers le progrès. Et une question que je voudrais vous poser, c'est justement, on parle de post-modernité. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce concept. Mais déjà, comment on peut définir la modernité ? Comment vous l'entendez ? Qu'est-ce que vous entendez dans modernité ? Enfin, moi, personnellement, si on doit me demander, je dirais modernité, c'est cette époque qui commence avec Galilée et Descartes, et qui va, d'ailleurs c'est pas pour rien hein, qu'on est dans une émission qui s'appelle Les Neveux de René, et qui va impulser un certain mouvement, qui est un mouvement de compréhension du monde et d'émancipation aussi des forces traditionnelles de la nature, etc. Alors vous, est-ce que c'est ça que vous comprenez par modernité ? Que comprenez-vous ?
Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin, je crois, dans son livre, c'est-à-dire que tout part de cette science, cette science qui devait rendre le monde plus accueillant d'une part, lui permettre de s'émanciper et de devenir plus autonome, et puis aussi d'autre part, la science qui était vue aussi comme pouvant rendre l'homme plus cultivé. Ça, c'est aussi le siècle des Lumières, et il dit non, on n'est pas plus cultivé, bien loin de là, et finalement, on ne vit pas dans un monde plus accueillant, bien au contraire, on est obligé de faire des études très très longues et on est toujours obligé de s'adapter, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la science qui vienne vers nous et qui nous rende service, c'est nous qui devons nous adapter au progrès de la science. Et il a un mot, du reste, à un moment donné, il avait pris aussi cet exemple, il parlait d'un bébé, le bébé dans la publicité Rhône Poulain qui disait « Bienvenue dans un monde meilleur ».
Oui, donc. Oui. Et au fond, avec le dérèglement climatique, les catastrophes à échelle planétaire qui s'enchaînent sans trêve, on sent que l'effet de... Il faudrait peut-être pas parler de l'effet de la science, mais de l'effet peut-être de la technoscience, c'est-à-dire cet adjointement très fort entre science et technique dans lequel nous vivons, a plutôt un effet dérégulateur, déréglementaire, je ne sais pas comment on peut dire, mais on a l'impression que justement il y a un paradoxe du fait que ce qu'on observe, c'est plutôt le dérèglement que le règlement, que l'harmonie, hein, c'est ça.
Bah oui, et en fait, c'est toujours voilà, ce problème de toujours vouloir aller plus loin aussi. C'est-à-dire que, et quelque part, c'est peut-être inévitable, je ne sais pas. Hein. Mais là, on pourrait peut-être presque lire un passage justement un peu plus loin dans le livre.
Oui, alors.
Où justement, Olivier Rey parle de la modernité, en fait.
Oui. Hein. Alors, ça, c'est le chapitre 7, hein,
ouais,
c'est ça ?
La limite introuvable. Ouais.
Oui, la limite introuvable. Ouais. Ouais,
je vous lis juste le début et puis on pourra en discuter. Donc, les anciens prenaient la sagesse. La quête de celle-ci pouvait engager sur un chemin infini, mais le but à atteindre, au moins, était marqué. La modernité, elle, prise le dépassement. Le dépassement de quoi ? De tout. Des frontières, des interdits, de soi-même. Surtout de soi-même. Pour aller où ? Peu importe. Se dépasser. Qu'en résulte-t-il ? Énormément de choses. Une activité débordante, des effets pas toujours heureux, car la fécondité veut que l'on sache agir, mais aussi ne pas agir, selon les moments. Même quand les produits sont bons, il arrive qu'ils n'aient été obtenus qu'au prix de l'épuisement du producteur, ce qui fait que manque au bout du compte celui qui aurait pu en jouir. Donc voilà un petit peu le début de ce chapitre. Et ça montre encore, c'est pareil, cette problématique que aujourd'hui on a l'impression qu'on est condamné au progrès, quoi. On est condamné à toujours faire plus, toujours aller plus loin, quel qu'en soit le prix.
Oui. Alors, ce mouvement, je vais vous le poser la question de but en blanc. Mais alors, si nous sommes condamnés, qui ou quoi nous a condamnés ? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça ? Parce qu'on pourrait dire, au fond, c'est l'être humain. L'être humain, il y a cette phrase de Pascal Jeune, hein, qui dit « L'être humain n'a été créé que pour l'infini hein. ». Vous vous souvenez, on l'avait lu une fois ensemble. Et est-ce que c'est ça ? On est fait pour ça ? Ou est-ce que y a quelque chose de non maîtrisé à un moment, une espèce de course effrénée, on se met tous à se battre les uns contre les autres pour savoir qui va faire le plus grand progrès par rapport aux autres. Enfin, on peut penser, moi, un sujet qui va me toucher au cœur, c'est tous les mouvements qui ont été faits par les pays, par exemple les pays d'Afrique, pour dire on va se libérer et on va essayer de rattraper l'Occident, ce qui ne s'est jamais produit. En revanche, bon, les Chinois, eux, ils l'ont fait. Mais on voit bien qu'il y a une quête effectivement infinie à dire qui va être le plus avancé dans le mouvement des peuples. Et on sent qu'aujourd'hui, ça mène à une impasse.
Oui, alors, je ne sais pas par où commencer, parce qu'au début, tu avais dit quelle est la cause. Après, tu as parlé peut-être d'un autre problème
qui était le peuple africain.
Alors, la cause, il y en a plusieurs. Il y a, disons que peut-être quelque part, on a oublié, comme le dirait hein, très bien, on a oublié la sagesse des anciens. La sagesse des anciens qui nous disait, d'une part, ne consommez pas trop, et d'autre part, connaissez vos limites. Et ça, le problème actuel, c'est que avec la société justement qui est appelée société de consommation, non seulement on ne dit pas aux gens de se réfréner, mais en plus on leur dit au contraire de consommer toujours plus. Hein. Donc on cultive non seulement la notion, on cultive la notion de besoin, et finalement on crée une société du manque. On a toujours besoin de plus parce que finalement il nous manque toujours le dernier produit.
Mais justement, pour préciser cette pensée, Anne, qui est ce on ? Qui est ce « on » ? Parce que tu dis « on dit
oui. ».
Alors, qui est ce « on » justement ? Pourquoi, dans quelle espèce de piège se retrouve-t-on justement ? Parce qu'on nous donne des injonctions, certes, consommer, mais est-ce que ça ne répond pas à quelque chose de profond en nous aussi, quelque part ? Pourquoi cette sagesse des anciens, elle nous paraît ringarde ? Pourquoi nous ne lisons plus Aristote ? Pourquoi Montaigne ou cet héritage d'avant, est-ce qu'il ne paraît pas un peu périmé face au progrès magnifique de la technoscience ?
Alors, je pense qu'il y a aussi un changement dans la société même, de chacun. C'est-à-dire au niveau de, on voit bien que la société, en tout cas les sociétés occidentales en particulier, on prenait quand même l'individualisme et donc la position de l'individu dans la société. Et donc ça engendre aussi beaucoup de choses au niveau de son comportement, parce qu'il va y avoir, ben, pour se placer dans la société, justement, une façon d'apparaître dans la société. Et donc la consommation est un des vecteurs qui permet de se mettre en évidence, quelque part, hein, d'exister, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on sait bien que c'est une illusion.
C'est ça.
Mais c'est cette illusion de l'existence dans la société.
Mais on peut aller un pas en avant, on peut dire que dans toutes les sociétés, même les sociétés traditionnelles, il s'agissait de montrer son opulence. On était des familles, on essayait, même dans les sociétés rurales, traditionnelles, je ne sais pas, dans tous les pays du monde, hein, pas seulement en Occident, mais partout, on a tendance à vouloir des richesses pour montrer aux autres qu'on est bien portant. Mais là, peut-être que c'est cette notion
C'est de la surenchère.
Voilà, il y a un côté peut-être surenchère sans limite. Et côté libération aussi, il y a peut-être un mouvement publicitaire qui s'appuie sur un projet de libération aussi de l'être humain. Je crois, Anne, que toi, tu avais noté aussi des choses par rapport à cette question de la libération des êtres humains, notamment la place de la femme, peut-être, des choses qui peuvent poser problème.
Oui, alors malheureusement, il y a certaines libérations de l'être humain, par exemple la fin de l'esclavagisme en Amérique l'émancipation de la femme, qui sont associées malheureusement au capitalisme et à la volonté de vendre des produits, tout simplement.
À des raisons économiques.
Oui.
Puisqu'on sait très bien que les esclaves noirs américains ont été libérés surtout parce que le Nord voulait vendre ses produits au Sud.
Tout à fait. Voilà. Marx aussi a une réflexion très profonde sur ça, effectivement, sur le fait que c'est quand on a des machines qu'on est plus enclin à vouloir la libération des esclaves.
Et donc c'est là où il y a vraiment une énorme perversion dans le capitalisme, c'est que finalement il accompagne des mouvements que normalement on pense bien et qui sont bien, mais il les accompagne de manière perverse en finalement autant d'autres, des choses à l'être humain, des choses qu'on ne voit pas dans un premier abord, qui
donc,
sont par exemple
libérer la
un
femme
certain
pour
sens
en faire
de la vie.
Une consommatrice.
Oui, oui, il y a cette idée qui est très.
Oui, c'est pas tout à fait comme ça.
C'est pas comme ça, oui, tu veux les nuancer, c'est ça.
Disons que ça a permis de la libérer, mais c'était pas forcément pour. Enfin, bon.
Oui.
C'est pas plus compliqué que ça.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, revenons donc à cette idée. D'opposer justement pensée des anciennes, pensée moderne et pensée peut-être post-moderne. Une chose que nous avons notée dans la réflexion que mène Olivier Rey, c'est l'omniprésence d'un cosmos, c'est-à-dire d'une harmonie du monde. D'accord ? Alors, justement, est-ce que cette pensée d'une certaine harmonie du monde dans laquelle chacun aurait sa place, est-ce que c'est pas ça qui est détruit par le projet moderne ?
Oui, je sais pas. Mais d'autre part, le problème de chacun à sa place, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Il faut savoir quelle place à chacun.
Voilà,
Donc là, c'est un autre débat qui peut nous entraîner très très loin.
Oui, justement. Je crois que ce débat-là, il faudra qu'on l'affronte un jour ou l'autre. Mais alors, laissons de côté l'aspect sociologique des choses, parce qu'effectivement, il peut nous amener. Il faudra en tout cas qu'on l'affronte. Il faudra pas qu'on le mette de côté. Mais en tout cas. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait une harmonie dans le sens où présence des dieux implique présence des limites dans le monde ancien ?
Oui.
Absence de dieux implique donc, ou non, peut-être pas, hein, à vous de me dire ce que vous en pensez, la disparition des limites. Hein.
Oui, c'est ça. Ça va dans le sens un peu, presque. Hein, alors, je ne voudrais pas... parler pour à sa place, mais dans le projet de Descartes, il y a quand même un petit peu ça, hein, c'est de se rendre maître et possesseur de la nature quand même. Il y a quand même un peu l'idée là. Je pense qu'il avait peut-être pas imaginé que ça irait aussi loin, quoique.
Oui.
Mais bon.
Il y a un comme et maître.
Comme.
Il y a le comme qui marque une certaine nuance, une certaine humilité. Mais effectivement, on a peut-être tendance à oublier cette limite.
On peut parler justement des mots vis-à-vis des limites d'Olivier Rey, qui sont quand même très beaux.
Oui.
Quand il en parle, souvent, il commence par Hercule, en disant que Hercule a inscrit nec plus ultra, donc pas plus loin. Hein. Charles Quint, au XVIe siècle, pour, comme devise de son empire, disait « plus ultra ». Et puis, et ben maintenant, la formule de pas mal d'institutions, c'est dépasser les frontières.
Oui. Tu penses au CNRS, hein.
Par exemple, mais c'est aussi oui. Chaque institution demande grosso modo aux gens de quel est son défi. Donc, il faut toujours aller plus loin. Il n'y a plus aucune limite. Et donc, ça nous rappelle aussi. Donc, je crois qu'il a dit quelque chose. Si je peux reprendre les phrases qu'il a dites, il a dit on est passé d'une mise en garde contre l'illimité à sa promotion. voire à l'injonction au dépassement perpétuel. Les limites sont toujours à dépasser, les défis toujours à relever.
Et ça, il me semble, Anne, que ça rentre dans une résonance avec le passage que nous avions lu tout au début, avec ce Gunther Anders. C'est-à-dire que Gunther Anders est un penseur du XXe siècle qui réfléchit sur cette honte, ce qu'il appelle la honte prométhéenne, justement, de l'être humain qui ne sera jamais assez fort, assez puissant, assez puisqu'il n'a pas été engineered, il n'a pas été construit, designé. Donc finalement, c'est un truc bricolé comme ça qui arrive, qui est faible. Et ce qui faisait donc la condition même de l'être humain devient une honte pour lui. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on cherche toujours à repousser les limites.
Bah, alors justement, là, si je peux aller dans ce sens-là, il y a un passage aussi très intéressant dans le chapitre sur la limite introuvable, donc toujours du même livre, hein, Question de taille, où il parle un petit peu de ça, de ce problème, et puis aussi de l'opposition à la nature, que la nature, qui était avant une sorte d'allié, devient quasiment un ennemi en fait. Alors je cite le petit passage, hein, c'est pas très long. Donc, la sensibilité de Rousseau à la nature a eu une large postérité, mais en pratique, c'est le point de vue de Voltaire qui a triomphé. La technique a changé de statut, de savoir-faire qui se transmet de génération en génération, qui permet à l'homme de prolonger l'œuvre de la nature et d'accoucher celle-ci de ce qu'elle ne produit pas seule, elle est devenue une arme de guerre contre une nature mauvaise, l'instrument d'un impérialisme. Les anciens et les médiévaux n'ignoraient nullement la technique, mais ses résultats n'étaient pas considérés comme apportant un bien qui aurait dépassé le niveau de l'utile ou du commode. Pour les modernes, en revanche, combattre la nature, c'est combattre le mal et répandre le bien. De la sorte, la production technique voit mettre à son crédit la force de la pratique morale.
Voilà, ça va exactement dans ce sens. C'est-à-dire que, au fond, nous pensons toujours le développement technique sous l'angle des avantages et des inconvénients. Mais peut-être qu'on se trompe, justement. Peut-être qu'il y a des hypothèses, je dirais, métaphysiques qu'il faut questionner, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons, quel est le rapport que nous voulons. Et pour le coup, c'est là où on peut se dire que la sagesse des anciens est une véritable sagesse. C'est-à-dire que...
Bah, tout c'est, à fait.
Voilà, c'est
Et puis, il y a, alors, peut-être ce qu'il faudrait aussi, sur un point sur lequel on pourrait revenir, dont tu parlais tout à l'heure, justement, sur le finalement, pourquoi il faut toujours aller vers cette course en avant, ben, c'est aussi le système économique dans lequel on est plongé, parce que ce système, en lui-même, par sa construction, est un système qui ne peut fonctionner que s'il croit de manière infinie. Donc ça, c'est déjà un vice de forme entre guillemets. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça complique quand même beaucoup les choses. Ce qui fait qu'on pousse les gens à consommer, c'est parce qu'il faut toujours consommer plus.
Tout à fait.
Pour que le système économique fonctionne.
Oui.
Donc là, c'est un grave problème. Et ça, tant que la société n'aura pas réfléchi sur ça, tout le reste quelque part est assujetti à ce problème de central et fondamental à mon avis.
Tout à fait. Alors, je vous propose de terminer l'émission avec une petite remarque de la part d'Anne sur cette question.
Oui, cette logique d'être toujours plus performant et de produire toujours plus, et c'est notre grande catastrophe actuelle puisque ça mène tout simplement à la disparition de notre monde.
Effectivement. Alors, pour ne pas terminer justement sur quelque chose trop catastrophiste, bien qu'il y ait qu'un catastrophisme qui soit philosophique et bon, on pourrait penser que c'est par la méditation d'une fin possible aussi qu'un changement peut advenir.
Au moins en prendre conscience.
Moins en prendre conscience. Voilà. Alors, on rappelle le rendez-vous pour les habitants de Nancy. Rendez-vous 11 décembre, mardi 11 décembre à 20h, salle d'honneur des universités, avec Olivier Ray qui nous parlera de son dernier essai sur la question du transhumanisme, donc dépassement de l'être humain. à travers la technologie. Nous souhaitons que chacun continue à lire les ouvrages qui ont été dits et rendez-vous dans 2 semaines avec les neveux de René pour continuer à discuter de ces questions. Merci à Antoine Honora pour la technique.